On va commencer par la fin. Donc j'ai intitulé, j'ai trouvé le titre ce matin, ça y est, parce que j'avais un titre qui ne me plaisait pas, mais ce matin j'ai trouvé en me lavant les dents, vous voyez, ça, rien, je ne vous cache rien. La résurrection, bonne nouvelle pour notre corps. Bonne nouvelle, évidemment, vous savez qu'en grec, ça veut dire, c'est le mot qui veut dire évangile, hein. Donc la résurrection, bonne nouvelle pour notre corps, évangile pour notre corps. Alors, en fait, ce qui m'a toujours intéressé dans la résurrection, c'est un paradoxe que je vais vous développer maintenant en introduction, parce que c'est ça qui me semble vraiment quelque chose de vraiment de très impressionnant dans notre dans le monde chrétien, quoi. Voilà, il faut partir d'une réalité vraiment signifiante pour nous chrétiens. La résurrection, je pense, est incontestablement et vraiment le centre de notre foi. Il faut même aller beaucoup plus loin. Elle est ce qui nous constitue comme chrétiens et comme peuple de Dieu, car c'est le Christ ressuscité qui, par sa victoire sur la mort, a rassemblé tous ses disciples. D'abord les témoins oculaires, tous ceux qui ont cru à cause de leur témoignage, hein, directement à l'époque, et tous ceux qui ont rencontré dans leur vie ce Christ toujours vivant, dont nous faisons partie. Donc cela fait 20 siècles finalement que nous sommes rassemblés en tant que chrétiens autour du Christ ressuscité. Donc c'est une manière de dire que la résurrection du Christ nous a fait communauté, hein, de frères autour du Christ ressuscité. Nous n'existerions pas en tant que chrétiens si le Christ n'était pas ressuscité. Ça, c'est quand même fondamental de prendre conscience de ça, quoi. Comme le dit Paul, si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est votre foi, vaine est notre foi. Voyez? On peut dire que tout le message de Paul est rassemblé autour de la résurrection. Voyez? Alors évidemment, peut-être un petit point de détail, il faut comprendre que quand Paul, par exemple, parle de la mort du Christ ou de la résurrection du Christ, à chaque fois, il fait les deux à la fois. Vous voyez, quand il parle de la mort du Christ, ça, il faut entendre aussi que le Christ est ressuscité, même s'il ne le dit pas. Vous voyez? Et quand il parle de la résurrection du Christ, bien sûr, il faut entendre sa mort. C'est donc, on pourrait dire, c'est la manière dont disons, les premiers chrétiens parlent du grand mystère du Christ, du mystère pascal, que ce soit par le biais de la mort ou de la résurrection, on dit finalement une seule et même chose. Vous voyez? Ça, c'est très important de l'avoir. De l'avoir en tête, on ne peut pas parler de la croix sans parler de la résurrection. C'est pas possible. Donc, quand on parle de la croix, il faut entendre résurrection. Mais quand on parle de la résurrection, il faut entendre la croix. Hein, donc, c'est vraiment indissociable. Alors, il y a là justement un paradoxe qui avoisine la contradiction. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, mais j'imagine que vous n'en faites pas partie. Enfin, je veux dire pas des chrétiens dont des chrétiens dont je veux parler. Je veux parler en particulier des pratiquants dominicaux, donc vraiment des chrétiens qui sont très informés, hein, qui ne sont pas chrétiens par origine familiale, etc. Donc des chrétiens absolument convaincus qui ne parviennent pas à croire en cette résurrection du Christ, ou plus exactement, ils ont des difficultés à croire en la résurrection de la chair. Vous voyez? Enfin, j'imagine que dans la salle, il doit y en avoir, oui. Mais quand même, alors, moi, c'était une enquête qui m'avait frappé. Donc, on avait interrogé des chrétiens à la sortie de la messe le dimanche. 30% des chrétiens sortant de la messe le dimanche disent ne pas croire en la résurrection de la chair. Alors, la résurrection du Christ étant peut-être autre chose pour eux, je ne sais pas. Mais en tout cas, la résurrection de ma chair, c'est quelque chose que je n'arrive pas à entendre. On fait un petit groupe de Lectio Divina, nous, chez nous, là, en Calca, et il y a un chrétien, donc un chrétien vraiment convaincu, hein, qui nous a dit au groupe, moi, j'y arrive pas. Je ne peux pas y croire. J'y arrive pas. Donc, vous voyez, quand même, il y a quelque chose qui est très fort dans ce paradoxe entre la foi qui nous est annoncée, qui part du dimanche de Pâques, qui part de la résurrection du Christ, et le fait que tant de chrétiens ont du mal avec la résurrection. Ça peut se comprendre, on est d'accord. Mais quand même, il faut, voilà, moi j'aime bien partir, si vous voulez, de situations comme ça, parce qu'au moins ça montre que le problème, il est crucial pour notre foi et pour notre agir de chrétien aussi, parce que, voilà, on va voir comment on se débrouille avec, quoi, hein. Alors, on peut ajouter peut-être que même pour ceux qui y croient, la résurrection ne constitue pas une réalité fondamentale pour leur vie spirituelle, ni pour leur agir dans la vie chrétienne. Je n'ai pas forcément conscience en tant que chrétien que j'agis au nom du ressuscité. Je n'ai pas forcément conscience que je suis là pour annoncer la résurrection. Vous voyez? C'est pas forcément ça qui va être le plus porteur pour moi. Donc voilà, même pour des gens comme nous, hein, qui croyons de manière, disons, simple, la résurrection du Christ, c'est pas si évident que ça. Et on peut constater, par exemple, dans les ouvrages de spiritualité, de la tradition chrétienne catholique, on va dire, par exemple, que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on ne parlait pas de la résurrection. Pas tant que ça, en fait, hein, vous voyez? Donc c'est quand même, voilà, moi je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui est à interroger là, vous voyez? Donc il y a vraiment une sorte de une coupure, peut-être même une cassure entre la place centrale de la résurrection dans le christianisme. Toute la liturgie de l'Église est organisée depuis la veillée pascale. Hein, vous comprenez? Le mystère pascal que nous célébrons du jeudi saint au samedi saint, au dimanche de Pâques, c'est ça qui engendre toute la liturgie de l'Église. Oui, c'est quand même pas rien. Hein. Et ça, c'est rappelé à chaque messe. Voyez. Et donc, entre ça et le fait que dans ma vie de chrétien, dans ma vie spirituelle de chrétien, je dois constater quand même que la résurrection n'est pas quelque chose qui me parle tant que ça. Et moi, je trouve il faut faire le grand écart, vous comprenez? Et donc, je suis parti de ça. Ça fait très longtemps que je m'intéresse à la résurrection à cause de ça. Hein? Comme je viens en plus d'un milieu athée, ce qui m'intéresse, évidemment, c'est ce qui fait difficulté dans le christianisme. Hein? Donc, évidemment, je suis très sensible au fait que, à l'intérieur du monde chrétien, la résurrection est un problème, vraiment. Vraiment un problème. Et c'est une parenthèse, je n'avais pas prévu de le dire, mais on peut dire que le deuxième grand mystère chrétien, la Trinité, pose à peu près la même difficulté aux chrétiens. Vous voyez, c'est quand même c'est presque comique, quoi, que le centre de notre foi, finalement, c'est un centre un peu vide pour nous. La Trinité, la résurrection, ouais, si on pouvait passer à autre chose, vous voyez, enfin, c'est un peu ça, quoi, hein. Donc, voilà, c'est très très bien, mais pas pour moi. Donc, voilà, il faut quand même essayer de repartir voilà, de cette réalité, quand même, qui doit nous interroger, quand même, hein. Alors, quand même, évidemment, les chrétiens ont bien conscience, quand même, que la résurrection, c'est quand même ça qui fait que nous sommes chrétiens. La résurrection, d'ailleurs, du Christ, est vraiment quelque chose qui est propre aux chrétiens, évidemment. Hein. Et on pourrait même dire que, à part les juifs, dans le monde religieux, personne ne croit à la résurrection. Hein. Ce n'est pas nécessaire. C'est parce que le Christ est ressuscité que nous y croyons. Hein. Sinon, il n'y a pas de raison. Donc, pour résoudre cette contradiction, quand même, que je signale au début, beaucoup d'entre nous avons transformé la résurrection en une sorte de vie immortelle. Et donc, on se contente finalement de croire en l'immortalité de l'âme. Finalement, ça nous convient très bien. C'est vrai, hein? Et là, on se retrouve d'accord avec les 2 ou 3 milliards d'êtres humains qui croient en l'immortalité de l'âme et qui se contentent de ça, hein? Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, d'ailleurs? Enfin, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que, voilà, finalement, l'hindouisme, le bouddhisme, beaucoup de spiritualité, finalement, croient en l'immortalité de l'âme, les Grecs, hein, croyaient en l'immortalité de l'âme, et finalement, ça leur suffisait. Et finalement, nous, chrétiens, nous nous tourmentons avec des questions insolubles ou à peu près, et donc voilà. Mais il n'empêche que notre foi nous dit que le Christ est ressuscité, et que c'est pour cela que nous sommes chrétiens. Donc, on ne peut pas se contenter de l'immortalité de l'âme, vous voyez? Voilà. Donc, pourquoi finalement on se contenterait de l'immortalité de l'âme? Et en fait, finalement, quand on parle de la résurrection, on l'envisage finalement comme une sorte d'immortalité de l'âme, hein, une vie après la mort, mais qui, en fait, pourrait très bien être remplacée par l'immortalité de l'âme. Pourquoi nous faisons cela? Parce que finalement, ça résout le problème. La première raison, c'est que la résurrection est comprise comme quelque chose qui concerne notre vie après la mort. Donc finalement, le problème, il est déplacé pour après. Donc comme on a déjà beaucoup de problèmes avant, ça nous en fait un de moins, vous voyez. Bon, donc c'est sympathique, mais en tout cas, vous comprenez, si la foi en la résurrection étant concernant la vie après la mort, ben voilà. Donc bon, ça nous... Il est donc normal que la résurrection n'imprègne pas notre vie quotidienne ni notre vie intérieure. Hein, ça, c'est une question qui concerne après la mort. Donc, elle est devenue en fait un concept relevant du domaine de la métaphysique, quelque chose de très abstrait, très déconnecté de notre vie d'aujourd'hui. Voyez, c'est pas un problème pour maintenant puisque c'est quelque chose qui concerne la vie après la mort, voyez, d'une certaine manière. Donc, voilà, pas de questions à se poser. Donc, déplacer la réalité de la résurrection après la mort, problème, quelque chose qui me fait problème, eh bien, ça la rend plus facile à croire. Vous voyez? Donc, parce que nous sommes, l'homme est très subtil, la femme aussi d'ailleurs, hein, soit dit en passant. Donc, les hommes et les femmes sont très subtils. Pour éviter, disons, le problème que pose cette résurrection dont on ne sait pas quoi faire, il faut être honnête, eh bien, on la transforme en immortalité de l'âme, on ne le dit pas bien sûr, hein, et on le déplace après la mort, donc pas de problème. Voyez? Et ça, c'est quand même quelque chose. Donc la résurrection, si vous voulez, elle fonctionne comme une idée, une conviction, et peut-être même comme une idéologie que Marx a reproché aux chrétiens en appelant la religion opium du peuple. On est en plein dedans, hein, d'accord, hein? Et l'opium console, alors je ne sais pas si vous en avez beaucoup pris dans votre vie, moi j'en ai pas pris, mais je me suis renseigné quand même, l'opium console en endormant la conscience et en favorisant l'apathie et le statisme. Et vous allez voir que ça c'est très important, parce que la résurrection elle vient bousculer tout ça. Mais c'est pour la suite de la conférence et pour réveiller les endormis peut-être déjà, et pour appâter mon auditoire. Donc je vous annonce déjà des mets succulents après, mais pour l'instant, voilà, on est dans l'introduction. De quoi vais-je témoigner en tant que chrétien, en tant que disciple du Christ, si je n'ai à proposer avec le Christ qu'une consolation après la mort, et si aucune transformation n'est envisageable pour aujourd'hui? Comprenez ça? Donc finalement, vous voyez, dans l'idée que je vais vous proposer, qui ne vient pas de moi, hein, qui vient de Saint Paul, hein, évidemment, la résurrection, c'est le contraire d'une apathie et d'un statisme. C'est le mouvement même de la vie de Dieu, voyez? C'est tout à fait autre chose. C'est une dynamique fondamentale. Hein, voilà, c'est trop fatigant, mais on va y arriver. Oui, voilà. Voyez, mais on va quand même, vous allez voir, on va mettre un peu d'énergie après. Alors, la deuxième raison qui fait de l'immortalité de l'âme une croyance bien plus acceptable et confortable que la foi en la résurrection, c'est que la question du corps est passée sous silence. Car il faut le dire avec insistance, la résurrection ne concerne que la réalité du corps. Alors, si la résurrection devient quelque chose qui concerne la vie après la mort, et si, disons, j'oublie que la résurrection est en train de me parler de mon corps aujourd'hui, eh bien, comme ma relation au corps, je ne sais pas si vous êtes au courant, est quand même plutôt problématique pour la plupart d'entre nous, ça fait un deuxième problème de moins. Donc, l'avantage, vous voyez, de ne pas penser à la résurrection maintenant. Parce que si je crois en la résurrection maintenant, là, ça veut dire que ça vient, disons, questionner très profondément ma relation au corps, ma conception du corps. Et c'est ça que je voudrais aujourd'hui développer devant vous. Voilà, la résurrection, donc, vraiment, c'est très important de le comprendre, hein. La résurrection, il faut vraiment le comprendre, ne concerne que le corps. Ça, c'est difficile à comprendre, en fait, parce que je vous dis, c'est pour ça qu'on est passé sur l'immortalité de l'âme. Vous comprenez? Parce que le corps, l'expérience que nous en faisons au quotidien, excusez-moi, messieurs, dames, mais je vous l'apprends, nous vieillissons et nous mourons. C'est ça que nous faisons comme expérience. Or, qu'est-ce que vient nous dire la foi en la résurrection? La résurrection nous dit que le corps, il est fait pour la vie. Alors là aussi, quand même, il y a quelque chose qui est, vous voyez, qui... Ça coince, voilà, on va dire ça comme ça. Alors, la résurrection ne concerne que... Pourquoi elle ne concerne que le corps? Parce qu'elle ne concerne que ce qui est mort, c'est-à-dire notre réalité corporelle. Puisque l'âme est immortelle, hein, c'est acquis, on va dire, pour la moitié de l'humanité, l'âme, elle ne mourra pas. Hein. Donc, elle n'est pas concernée par le, entre guillemets, le dépérissement. Hein, vous voyez? Donc, voilà, ce n'est pas un problème pour l'âme de mourir, puisqu'elle ne meurt pas. Comprenez? Par contre, pour le corps qui vieillit et qui meurt, alors là, oui, la mort, ça veut dire quelque chose, quoi. Et pourtant, c'est à notre corps qu'est promise la résurrection. L'enjeu est énorme, mais en même temps, c'est ici que se manifeste avec le plus d'acuité la contradiction que j'ai relevée au début de mon propos là. La résurrection de la chair, si j'en accepte la foi, vient donc contredire l'expérience que je fais de la vie dans mon quotidien. Voyez? Et ça, c'est quelque chose qui doit tout de suite m'alerter sur, on va dire, l'importance que je peux donner à la résurrection, quoi. Parce que si la résurrection concerne la vie du corps, alors ça veut dire que la résurrection concerne ma vie aujourd'hui, immédiatement. Donc, vous voyez, le fait de dire que la résurrection concerne la vie après la mort, ça c'est faux déjà. Ça ne peut pas être ça. Si c'est ça, ça veut dire que ça ne concerne pas la vie du corps. Vous voyez? Hein? Donc c'est très important de le... Mais évidemment, je ne fais pas immédiatement l'expérience de la résurrection de mon corps. Je fais au contraire l'expérience de mon corps qui vieillit et qui meurt. Alors, pourquoi je suis un peu lourd, je reconnais, hein. Mais parce que si vous voulez, c'est bien de se positionner de manière forte sur cette contradiction, parce que c'est ça qui va être fécond. Vous savez très bien que dans notre foi ou dans nos relations, c'est toujours ce qui fait problème qui est source d'enrichissement. Quand tout va bien, souvent d'ailleurs c'est faux, mais enfin bon, c'est une autre manière, une autre question, quand tout va bien finalement, hein, moi je me rappelle, une fois j'ai pris conscience de ce que c'était un malentendu. Malentendu, ça veut dire que, normalement, hein, ça veut dire que j'ai mal compris, mal entendu ce que tu as dit. Or, le malentendu, ça arrive au moment où dans une conversation, on prend conscience qu'on ne se comprend pas. Mais ça, c'est vrai. Ce qui était faux, c'était qu'on croyait qu'on se comprenait. Donc moi, maintenant, depuis, je n'appelle plus ça un malentendu, mais un bien entendu. Parce que finalement, voilà, le malentendu révèle une vérité, nous ne nous comprenons pas. Et tout d'un coup, paf, ça se voit. Donc le malentendu est un bien entendu. Alors, pour pouvoir parler de la résurrection et tenter de sortir de cette contradiction, le chrétien, il doit avoir un réflexe, je dirais, méthodologique, vous voyez. Son réflexe, ça doit être de revenir à la Bible. Parce que d'une certaine manière, il n'y a que la Bible qui en parle de ça. Hein, comme dans les grands livres sacrés, la résurrection n'est évoquée que dans la Bible. Alors déjà dans l'Ancien Testament, un petit peu, hein, ça, dans le livre des martyrs d'Israël, par exemple, dans le livre de Daniel, vous avez déjà la réalité de la résurrection qui apparaît. Donc c'est une croyance tardive. Et puis, bien sûr, dans tout le Nouveau Testament, on n'entend parler finalement que de ça. Donc, le réflexe du chrétien, alors on peut dire ça d'ailleurs pour tous les sujets, c'est de revenir à la parole de Dieu. Vous voyez? Ça, c'est toujours un réflexe que nous devons avoir. Alors, évidemment, pour avoir une réflexion sur le monde numérique, par exemple, évidemment, la Bible ne va pas parler directement de l'ordinateur, hein. Mais par contre, elle peut dire quelque chose sur ce qu'est un être humain. Alors, on peut dire, par exemple, la Bible me dit qu'un être humain, c'est ça, et dans le monde numérique, je vois que y a ça qui n'est pas respecté. Vous voyez comment la Bible, elle peut interagir sur nos conceptions, hein? En tout cas, pour la question de la résurrection, Il est évident que ce livre est une ressource majeure. Merci. C'est mon oxygène, hein. Donc il ne faut pas me l'enlever. Voilà, donc revenir et repartir de la parole de Dieu. Mais, alors ça, je vais ajouter, et je trouve que les universités d'été qu'ont créées Frère Jean-Marc et une petite équipe au départ, ont vu une intuition très fondamentale de notre christianisme d'aujourd'hui, c'est-à-dire finalement d'associer toujours, toujours la Bible avec les sciences humaines. Parce que si vous voulez, le problème que peut avoir la Bible, c'est pas le texte en lui-même, c'est l'interprétation que nous en faisons. L'interprétation que nous en faisons peut avoir, disons, des peut être culturel, idéologique, et donc on peut déjà mal comprendre ce que dit la Bible sur certaines questions, parce que finalement on projette dans le texte des choses qui n'y sont pas, alors qu'on pense que ça y est. Par exemple, si je vous dis là, tout ça je ne l'ai pas écrit évidemment, donc je vais. J'ai jusqu'à quelle heure au fait? 4h10 ça fait? Parce qu'on a commencé à. C'est ça, hein? Oui, 4h10, c'est ça, hein? C'est ça, hein? Mais il faut que je fasse attention à l'heure parce que je rajoute des choses, évidemment. Vous voyez, si on regarde juste, par exemple, la question du péché originel, il est évident que la Bible n'en parle pas, hein, en tant que telle. Or, ça a pris une place énorme, parfois, dans certaines conceptions théologiques. La référence à la Bible, elle est extrêmement minime parce que, bon, c'est pas un concept biblique en tant que tel, vous voyez. Enfin, alors évidemment, on essaie de recouper, mais ce que je veux dire, c'est que l'interprétation de la Bible peut poser problème. Et en ce qui concerne, on va dire, le fait anthropologique, tout ce qui concerne l'homme, sa psychologie, sa physiologie, sa santé, la constitution corporelle, il est évident qu'il faut s'assurer que ce que l'on dit à partir de la Bible coïncide avec ce que disent les sciences humaines, les sciences médicales. Sinon, on risque toujours d'être de quel homme on parle, voyez? Ça ne veut pas dire que les sciences humaines ont forcément raison, hein. Là, je suis en train de dire que ce qui est important, ce qui est fécond, c'est la confrontation. Mais nous ne pouvons pas avoir raison contre, disons, on va dire, nous, en tant que nous chrétiens, hein, nous ne pouvons pas avoir raison contre toutes les sciences humaines simplement parce que c'est dans la Bible. Peut-être que ce n'est pas dans la Bible, que c'est nous qui avons interprété la Bible de cette manière-là. Voyez? Donc il faut faire attention à ça. Et je trouve, si vous voulez, que la confrontation des deux, hein, est certainement très féconde pour l'interprétation biblique. Donc voilà. Alors moi, je vais pas m'intéresser aux sciences humaines. Ce que je veux dire, je m'inscris dans une université qui fait ça. Donc c'est-à-dire ce que moi je vais dire à partir de la Bible doit donc être confronté avec ce qui sera dit par les cinq autres intervenants qui vont pas forcément partir eux de la Bible comme moi, quoi, vous voyez? Mais c'est important de savoir, hein, que la position biblique, elle n'est pas forcément vraie parce qu'elle est biblique. Je vous dis, il peut y avoir des phénomènes d'interprétation très forts qui fait que l'interprète ajoute quelque chose à la Bible qu'elle ne dit pas, hein, voyez? Le péché originel, par exemple, voilà, c'est quelque chose qui est massif, peut-être dans certains types de théologie. La Bible, elle n'en dit pas grand-chose, quand même. Voyez? Et bon, aussi, si vous prenez l'exemple, par exemple, du créationnisme, par exemple, on ne peut pas partir de la Genèse, des premiers chapitres de la Genèse, pour bâtir une théorie scientifique de l'évolution, par exemple, ou de la création. Ce texte, il ne dit pas ça. Il est en train de nous dire la manière dont Dieu a créé le monde, mais pas la manière scientifique. C'est-à-dire ce que Dieu a voulu, quelle est l'intention qu'il a voulu en créant ce monde. Voilà. Donc, hein, vous voyez, ce sont des choses différentes, quoi. Alors, évidemment, quand on parle de la résurrection et donc on parle du corps, il faut quand même s'assurer en tant que chrétien que ce qu'on dit ne contredit pas de manière formelle et évidente ce que les sciences humaines vont nous dire. Voyez? Donc, je parle de la confrontation, hein. Je ne suis pas en train de dire que les sciences humaines ont forcément raison. En tout cas, c'est toujours important de se confronter à elle pour affirmer des choses sur le corps. Alors, évidemment, moi, je vous dis, je me tiens encore à la tradition biblique, hein, donc ce sera à vérifier après avec d'autres, hein. Parce que, si vous voulez, voilà, un texte biblique ne doit pas servir à illustrer une idée ou un raisonnement. C'est trop souvent ça qui a été fait. Il faut toujours lire la Bible en s'inscrivant dans un mouvement. Donc, le danger, si vous voulez, c'est d'isoler un verset et de dire, voilà, la Bible, elle dit ça à ce propos. Mais il faut jamais lire la Bible comme ça. Hein? Là, je suis en train de dire un peu le réflexe méthodologique que nous devons avoir en tant que chrétiens. Il faut vraiment avoir le souci de prendre le maximum, hein, d'épaisseur dans ce texte. De jamais tirer un verset, comme font par exemple les témoins de Jéhovah. Ils ont réponse, ou certains types d'évangélisation, on va dire, les télé-évangélistes américains, ils font comme ça. Ils ont un verset pour chaque truc. Vous avez un problème, hop, tel verset. Voilà. Donc Jésus répond à tous vos problèmes, sauf le mien évidemment, mais bon, ça c'est une autre question. Vous voyez, mais ça c'est un réflexe qu'il ne faut pas avoir. Il faut vraiment partir de la Bible et de son mouvement. Vous voyez, un texte biblique c'est toujours un mouvement. Et ça il faut se laisser faire par ce texte et se laisser guider. Vous voyez. Alors par exemple là j'ai pris le grand texte de Saint Paul sur le baptême dans Romains 6, hein, l'épître aux Romains qui est vraiment une des grandes lettres de Saint Paul. Et j'ai pris donc le fameux passage sur, enfin le fameux, en tout cas qu'on lit souvent à la messe, hein, le dimanche, le chapitre 6. Et vous voyez, j'essaye de le lire comme un grand mouvement, hein, pas d'aller tirer là trois idées qui me permettent, disons, de conforter ce que j'ai à vous dire, mais plutôt partir du texte pour essayer d'entendre ce que Saint Paul dit de la résurrection. Alors, je sais pas, est-ce que ça vous étonne que je prenne ce texte sur le baptême pour parler de la résurrection? Ça vous étonne? Non? Ah, ben. Vous êtes donc, je m'en vais, j'ai plus rien à dire, hein, je crois. C'est bon, on peut arrêter. Si c'est clair pour vous, c'est très bien. C'est pas si évident que ça de penser baptême et résurrection en même temps, hein. Enfin, je sais pas, mais je sais pas ce que vous mettez derrière. On verra dans les détails après, dans les réflexions de groupe et les partages après. C'est pas du tout évident de penser résurrection et baptême en même temps, hein. Or, justement, c'est là. Quand Saint Paul, il parle du baptême, finalement, il ne parle que de la résurrection. Et on pourrait dire que la réalité de la résurrection, elle est tout entière, entre guillemets, contenue dans notre baptême. Vous voyez? Alors c'est pour ça que éclairés l'un par l'autre, alors évidemment, s'il y a des théologiens, s'il y a des dominicains dans la salle, je ne sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'évidemment, je fais des raccourcis, mais quand même, c'est très très important de comprendre que le baptême, c'est déjà la résurrection. Vous voyez, donc là, on est tous concernés. Donc, dès qu'on est baptisé, on entre déjà dans le processus vital de la résurrection. C'est comme ça que Saint Paul nous parle du baptême et de la résurrection. Et vous comprenez que si c'est ça, la résurrection, ça veut dire que nous sommes tous concernés aujourd'hui. Et comme je vous ai dit, donc, vous voyez, la résurrection ne concerne pas la vie après la mort. Ça concerne toute notre vie de chrétien. On pourrait dire que notre vie de chrétien est informée. Informée, ça veut dire formée dans la résurrection du Christ. Voilà. Donc le baptême nous fait participer à sa mort et à sa résurrection. Et vous comprenez que, puisque je vous ai dit tout à l'heure que la résurrection ne concerne que le corps, ça veut dire que c'est dans notre corps aujourd'hui que déjà il se passe quelque chose à ce niveau-là. Vous voyez? Donc ça, quand même, ça change nos conceptions. La résurrection, vous voyez, vous comprenez maintenant pourquoi elle peut être centrale dans notre vie, quoi, hein, puisqu'elle est à l'origine de notre baptême. Hein. C'est parce que le Christ est ressuscité que je suis baptisé en son nom. Hein. Enfin, vous voyez, c'est donc très important. Hein. Alors vraiment, voilà, quand on entre dans la Bible, moi je me dis, voilà, je dis souvent, ne la lis pas. Laisse-la te lire. Vous voyez, il faut essayer de. Quand on lit la Bible, il faut essayer de. C'est pas moi qui lis la Bible, c'est la Bible qui me lit. le verbe lire, hein, qui me lit, vous voyez? Donc il faut essayer de la laisser vraiment parler, entrer. Il faut vraiment essayer de la laisser retentir en nous, quoi. Hein. C'est comme ça qu'on la lit. Sinon, vous savez ce qu'on fait? On va forcément la, on va lui mettre un cadre. Et le problème de la Bible, si vous voulez, c'est qu'elle est humble comme Dieu. Je trouve que Dieu est très humble pour ma part, et la Bible, elle est très humble aussi. C'est un livre qui accepte en fait, d'une certaine manière, d'être complètement déformé. C'est un livre, si vous voulez, qui se prête à, qui accepte, on va dire, la déformation, parce que il y a des choses. C'est un livre tellement connu qu'on n'a pas de mal à la tordre, en fait. Et alors, on n'entend plus ce qui est dit, quoi, vous voyez? Alors justement, dans les partages tout à l'heure, je vous proposerai un deuxième texte de Saint Paul, tiré des Corinthiens, de la deuxième aux Corinthiens, à partir duquel je vous propose de réfléchir sur la résurrection d'une autre manière, hein, puisque c'est du Saint Paul. Alors, tout l'enjeu de la résurrection, c'est pas compliqué, ça se tient en ceci. Ou bien c'est une idée, un concept, qui concerne donc notre vie après la mort, et dont on ne voit pas bien ce que l'on peut en faire dans notre vie chrétienne, ou bien c'est une puissance capable de transformer la vie d'un homme. Parce que c'est une puissance qui nous vient directement de Dieu, quoi. Vous voyez? Donc si la résurrection, ce n'est pas une idée, mais si c'est quelque chose qui nous vient, on va dire, de la vie de Dieu, alors vraiment, c'est quelque chose qui peut me transformer, quoi. Hein? Donc vous voyez, c'est tout à fait autre chose, hein? Alors, pour vous lancer un petit peu dans le texte, donc je ne vous lis pas tout, hein, je vais vous lire des petits extraits, mais quand même, l'idée, c'est quand on reprend Saint Paul, c'est de vraiment de le lire lui et de le laisser nous guider dans. Hein. Alors, je vais partir du verset 3. Hein. Alors, ignorez-vous que baptisé dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que tous nous avons été baptisés. Alors, je vous disais tout à l'heure, quand Paul parle de la mort, il faut toujours entendre les deux à la fois. Hein? Là, sinon, on risque de faire des contresens. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême dans la mort, hein? Afin que, comme le Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, nous vivions nous aussi dans une vie nouvelle. Vous voyez comment il en parle, Saint Paul? Saint Paul, tout de suite, il est orienté. Il parle bien qu'on passe par la mort. Hein. Donc, vous voyez, la résurrection, ce n'est pas l'opium du peuple. Il ne s'agit pas de nier la mort. On la traverse pleinement. Le Christ est passé devant nous, mais on passe là. Mais elle est tout entière orientée vers, vous voyez, ce que Saint Paul appelle une vie nouvelle. Donc voilà, ce que la résurrection nous donne finalement, c'est une vie nouvelle, vous voyez. Donc être baptisé finalement, puisque Saint Paul en parle à cet endroit-là, c'est commencer à être transformé par la puissance de la résurrection du Christ. C'est ça qui se passe au moment du baptême. Alors, que ce soit la question de l'âge de la réception du baptême n'est pas un problème, puisque c'est un don, hein, qui nous est fait. Vous comprenez que quand la vie nous est donnée, on n'attend pas d'avoir 8 ans pour dire je reçois la vie. Non, la vie, elle me précède. Et on pourrait dire toujours que la grâce de Dieu, elle me précède. Après, c'est à moi de la choisir librement, vous voyez. Mais la question, disons, du baptême des petits-enfants, par exemple, n'est pas un problème, puisque c'est un don qui est fait à l'homme, et donc c'est à l'homme d'en faire quelque chose ou pas, quoi. Hein, vous voyez. Donc, vous voyez, tout de suite, Saint Paul nous oriente vers la vie nouvelle. Et ça, c'est. Voilà, c'est-à-dire que quand je crois à la résurrection, ça veut dire que je crois en une vie nouvelle. Et une vie nouvelle qui a commencé pour moi le jour de mon baptême. Vous voyez? Et ça, c'est quand même très important. Donc vraiment, on voit bien que ça n'a rien à voir avec l'immortalité de l'âme. Vous comprenez comment fonctionne l'immortalité de l'âme? C'est une sorte de consolation pour après la mort. Alors, ça donne du sens à notre vie, peut-être, hein, l'immortalité de l'âme. On se dit, bon, qu'on ne va pas mourir totalement. Mais c'est quelque chose, si vous voulez, qui est un peu abstrait, puisque ça concerne quand même la vie après la mort. Là, Saint Paul est en train de vous dire qu'à partir du jour de ton baptême, tu es entré dans une vie nouvelle. Et cette vie nouvelle, elle doit grandir en toi aujourd'hui. Et c'est ça la résurrection. La résurrection, elle commence là, vous voyez. Donc, vraiment, on est très, très loin, hein, disons, d'une conception abstraite, hein, de la résurrection. Alors, il continue. Hein. Bon, évidemment, je passe assez vite parce que le temps presse déjà. Et puis, voilà, je voudrais aussi finir sur. Là, je suis un peu long au départ parce que je voudrais, avant d'arriver au corps proprement dit, c'est-à-dire qu'est-ce que la résurrection nous dit sur notre corps, je voudrais bien poser les jalons, vous voyez, pour arriver à ça. Hein. Alors, si je continue un petit peu le texte de saint Paul, car, écoutez bien, ces termes sont quand même d'une force, on ne s'en rend pas compte. Hein, mais, moi, je les ai lus 200 fois, mais je me dis que c'est toujours quand même une nouvelle impressionnante. Toi. Car si c'est un même être avec le Christ que nous sommes devenus par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable. Un même être avec le Christ. C'est-à-dire que, chrétien, je suis Christ. C'est ce que nous dit saint Paul, hein. Le chrétien, c'est Christ. Vous savez, les premiers chrétiens disaient, le chrétien, c'est l'alter Christus, c'est l'autre Christ. Vous voyez, déjà, tout ça nous oriente sur tout à fait autre chose. Hein. Alors, si je suis un autre Christ, ça veut dire aussi que mon frère baptisé est un autre Christ pour moi. Vous voyez en quoi cela va changer, déterminer un changement radical dans notre vie, la résurrection. Hein. Puisque la personne qui est à côté de moi, c'est Christ. Moi, j'ai personne, ça tombe bien. Mais vous, c'est autre chose. Moi, j'ai un joli pot de fleurs, donc c'est très bien. Merci, mon Christ. Mais par contre, vous, puis imaginez, mari et femme, quand même. Mari et femme, ça veut dire que mon mari, c'est Christ. Mais il faut aussi que le mari le pense. Hein. Ma femme, c'est Christ. Parce que parfois, c'est pas toujours à égalité. Mais vous vous rendez compte, quand même? Un même maître avec le Christ. Comprenons-le, notre vieil homme a été crucifié avec lui pour que fût réduit à l'impuissance ce corps de péché, afin que nous cessions d'être asservis au péché. Et il faut dire quand même que le péché, c'est la loi qui nous domine. Et vous savez qu'on a quand même bien du mal à y échapper, quand même. Hein, on se voit bien. Mais ce que nous affirme saint Paul, c'est que le Christ nous a obtenu la victoire sur le péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Si nous mourons dans le Christ, c'est pour être libre, pour être libéré, quoi. Si vous voulez, le problème qui se pose, tout simplement, c'est souvent on ne réfléchit pas aux implications que cela a dans notre vie quotidienne, ça. Vous voyez? C'est ça qu'il faut essayer d'entendre de la parole de Dieu elle-même ou du Christ lui-même. Il faut entendre ce que ça veut dire concrètement pour nous. Aujourd'hui, au-delà des apparences et disons de ce que nous voyons avec nos yeux un peu gros quoi, avec un petit peu nos gros yeux quoi. Alors le processus du péché donc, cette puissance qui nous coupe des autres, qui nous emprisonne en nous-mêmes, qui nous prive de la relation, est vaincu. Et comme englouti en Christ. Alors bien sûr, cela ne signifie pas que nous ne pécherons plus. Et que le péché ne nous atteindra plus. Hein. C'est pas ça que ça veut dire. Mais il n'aura plus le dernier mot dans notre vie. Et si le péché nous vainc, le verbe vaincre, sa victoire est forcément provisoire. Vous voyez? C'est ça, il faut le croire. Et oui, le problème, c'est que on a du mal. On a du mal à le croire parce que, si vous voulez, je pense qu'on ne part pas de la résurrection. On part souvent de notre réalité apparente. Et alors évidemment, par la réalité, normalement, on peut aller à Dieu par la réalité. Hein. Mais quand même, la révélation de la résurrection est une révélation qui a été rendue nécessaire parce que l'homme par lui-même, il ne peut pas imaginer cela, il ne peut pas penser cela. Un homme donc, qui voit son corps se dégrader vieillir et mourir, ne peut pas penser par lui-même que le corps est promis à la gloire de Dieu. C'est pas possible de le croire, voyez. Donc il a fallu que le Père envoie le Fils pour qu'il passe par la mort, qu'il ressuscite et que l'on voit que c'est ça à quoi nous sommes promis. Alors évidemment, vous comprenez que si on part de notre réalité quotidienne, on n'arrivera jamais à ça, hein. C'est aussi pour ça que la résurrection doit être le centre de notre foi, parce que c'est ça qui va inverser notre regard sur tout. Vous voyez? Et ça, c'est très important, hein. Alors, on pourrait dire qu'en Christ, la vie, avec un petit v et un grand v, est devenue notre orientation fondamentale, même si le péché semble remporter encore la victoire ou des victoires sur nous. Ça ne peut plus être une victoire définitive, comme je vous disais. Dans la réalité profonde, il n'en est plus ainsi. Ça, c'est ce que j'ai reçu le jour de mon baptême. Le jour de mon baptême, j'ai reçu la garantie absolue que le péché et la mort n'auraient pas le dernier mot. Et ça, je peux le croire parce que je l'ai vu en Christ. Vous voyez? Parce que comme c'est ça que je dis et que je crois quand je dis que le Christ est ressuscité, vous voyez, c'est ça que je crois et que je dis, hein. Mais alors, il faut faire attention, hein. Mais nier la réalité toujours actuelle du péché dans ma vie serait une grave illusion. Car la résurrection, alors c'est ça qui est voilà, qui fait aussi partie du mystère de la résurrection. La résurrection agit en nous comme une graine plantée en terre, à qui il faut du temps pour se développer. Alors ça, c'est mon côté frère du potager qui revient en force. Hein. C'est que, voilà, quand on travaille la terre, on se rend compte que le temps est un facteur essentiel. Et justement, la résurrection, en fait, elle travaille le monde en respectant la condition du monde qui est d'être dans le temps. Vous voyez? Si Dieu n'avait pas respecté cette condition fondamentale du temps, il aurait fait un miracle au sens, voilà, tout change comme ça, voyez? Mais c'est pas comme cela que Dieu est fait, parce que Dieu, si vous voulez, il peut pas contredire la loi qu'il a inscrite dans notre être, c'est que nous sommes des êtres voués au temps. Donc la résurrection, elle va nous travailler en profondeur. Progressivement, dans le temps. Et moi, je vous assure que quand on fait des semis, la graine, elle met du temps avant de sortir, hein. Par contre, la graine, elle est capable de fendre du béton, hein. Je pensais aussi à l'image d'une goutte d'eau, ça creuse des vallées, des milliards de milliards de gouttes d'eau les unes après les autres, creusent des vallées, font des grottes, enfin, vous voyez? Voilà, c'est comme ça que Dieu il agit. On a l'impression que notre Dieu n'aime pas les actions éclatantes. Alors évidemment, il y a la libération du peuple d'Égypte avec le grand miracle de la mer rouge, hein, mais c'est immédiatement suivi des 40 ans au désert, vous voyez? Donc voilà, il peut arriver que Dieu fasse des choses éclatantes, mais on va dire que ce n'est pas son mode d'action habituel. Son mode d'action habituel, c'est plutôt l'enfouissement. Notre Dieu est un Dieu humble et discret. Il disparaît dans la création, si on peut dire, dans le sens que son action va être cachée. Hein. Donc, il faut donc reprendre la contradiction que nous avons mise en lumière au début. La résurrection, et c'est ça le problème finalement, est une contestation radicale de ce qu'est notre vie dans son apparence même. Vous voyez, la foi en la résurrection ça vient contredire mais complètement notre conception de la vie, quoi. C'est pour ça que cela demande de la foi et que la foi demande une conversion. C'est parce que je dois accepter ou bien de penser par moi-même ou bien de penser comme Dieu. Mais penser par moi-même, je ne pourrai jamais penser comme Dieu. Moi, je lui dis tous les jours, hein, même, je lui dis, je ne peux pas penser comme toi. Une fois, j'avais fait rire mes frères parce que je leur avais dit, comme Dieu n'a pas de cerveau, il ne peut pas penser comme nous. Parce que nous, on a un cerveau, donc notre pensée, elle est corporelle, hein, n'oublions pas, et donc elle est inscrite dans le temps. Tout ce qui est corporel, c'est temporel. Donc quand je pense, je suis obligé, je ne peux pas penser comme les anges, vous voyez? avoir tout immédiatement. Je ne peux pas penser comme Dieu, et donc Dieu, il ne peut pas penser comme moi. Et moi, je me rends compte tous les jours hein, qu'il ne pense pas comme moi. Tant mieux d'ailleurs, parce que c'est vrai que ce ne serait pas toujours. Hein. Alors, imaginez qu'une graine soit seulement une idée. Donc, moi, je pourrais essayer demain, dans mon petit jardin du monastère, je vais planter des idées pour voir ce que ça donne. Je peux toujours essayer de planter une idée de tomate. Je suis à peu près sûr que je n'aurai pas un plant de tomate dans 2 mois. Vous voyez? Et souvent, le problème, c'est que nous plantons des idées, mais nos idées sont abstraites. Vous voyez? Ça, c'est le problème de l'homme occidental aussi, c'est que souvent la technique nous a pervertis, si vous voulez, entre guillemets, parce que notre pensée s'est complètement déconnectée des conditions matérielles de notre existence. Donc, on pense des choses qui ne sont pas viables naturellement, vous voyez? Et donc, c'est pour ça qu'actuellement, on est dans cette grande contradiction avec la nature, quoi, hein? Parce qu'on n'est pas parti d'une idée qui soit vraiment ancrée dans la chair, dans la matière, quand même. Parce que je voudrais vous dire, en fait, les trois grandes vérités qu'on pourrait dire sur le corps humain à partir de la résurrection. Hein. Mais moi, je trouve que, si vous voulez, pour comprendre le mystère de la résurrection, je trouve que le cycle naturel nous apprend ça beaucoup. Si on pouvait revenir à la Terre et à l'enseignement qu'elle nous donne, vous voyez, ce serait tellement merveilleux parce que finalement, la terre, Dieu dans la terre, dans la manière dont la terre se développe sa vie, nous dit quelque chose de notre mystère tellement profondément que si on est déconnecté de ça, je veux dire, on ne peut que se tromper, quoi, vous voyez? Parce que voilà, le fait de pouvoir vivre, par exemple, de pouvoir vivre entièrement la nuit, ben, ça nous déconnecte de la réalité. Hein. Avant, au XVIIe siècle, quand on voyageait, la nuit, on s'arrête. Hein. Et moi, je vois, j'ai un poulailler, je vous assure que les poules sont devenues mes maîtresses spirituelles. Hein. Parce que je me dis, mais c'est vrai, elles ont raison, quoi. Elles ont raison, quoi. Quand le soleil se couche, elles se couchent aussi, quoi. Quand le soleil se lève, se lève aussi. Alors, je ne dis pas qu'il faut vivre comme ça, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que, vous voyez, il y a ce lien avec le soleil, la terre, voilà. Quand je vois les poules, elles choisissent l'ombre. Elles se mettent pas au soleil. Voyez, il y a cette intelligence de la vie qui fait que finalement elles arrivent à vivre. Et parfois je me fais rire parce que je me dis quand je les appelle au téléphone, elles répondent jamais. Un jour, je me suis dit, mais quand même, je me posais la question, je me suis dit, mais pourquoi elles ne répondent pas? Et je me suis dit, mais c'est évident, elles préfèrent me voir. Oui. Après, donc, je me suis dit, téléphone, elles ne peuvent pas comprendre le téléphone. Elles préfèrent que je vienne les voir, leur apporter la salade, vous voyez? Donc, voilà, il y a cette. Vous voyez, alors, évidemment, quand on est à 20 000 km de quelqu'un, c'est très bien de pouvoir lui parler. Mais quand on téléphone à quelqu'un qu'on peut voir à côté, il vaut mieux quand même prendre le temps de se déplacer, quoi, vous voyez? Voilà. Et voilà. Si vous voulez, la nature, elle procède de la même manière que Dieu, finalement. Elle recycle tout, transforme tout. Rien de ce que produit la nature ne restera tel quel. Tout est transformé pour que tout serve la cause du bien commun. Tout. Vous voyez, et ça, c'est ma manière à moi de vous faire rentrer dans les mystères de la résurrection. Une chose qui meurt dans la nature sert à la vie des autres êtres vivants. La mort est toujours un acte relationnel, toujours dans la nature, toujours, toujours. Et si la mort est un acte relationnel, c'est parce que toute la vie créée par Dieu est relationnelle. Donc toute la vie, jusqu'à la mort comprise, est relationnelle dans la nature. Donc, vous voyez, ça nous oriente à comprendre mieux le mystère de la résurrection. Tout est en relation avec tout. Hein. C'est ce qu'a proclamé le pape, notre pape bien-aimé, enfin, j'imagine, notre pape François dans son encyclique Laudato si. Hein. La résurrection fonctionne comme le miracle de la vie dans tous les cycles naturels. Tout est orienté vers la vie pour que la vie puisse toujours éclore. C'est pour ça que par la résurrection, Dieu, il va faire de la vie à partir de la mort. Comprenez? C'est impossible pour Dieu que quelque chose meure en dehors du mouvement vers la vie, quoi. Et ce miracle est allé jusqu'à faire de la mort, de tout ce qui est mort, la condition même et sine qua non de la possibilité de la vie. Hein? C'est l'hiver qui rend le printemps possible. Et ça, je vous assure, c'est vrai dans la nature. Hein? C'est la couche d'humus qui pourrit pendant l'hiver. Hein? Donc, pendant l'automne, tout se dégrade et tout tombe. Pendant l'hiver, tout se dégrade. Et pensez que la couche qui tombe sur le sol protège la terre du froid. Enfin, c'est merveilleux quand même de comprendre ça. Vous voyez que l'humus, en fait, c'est ce qui, à la fois, c'est ce qui va, c'est comme une couverture. Ça protège la terre du froid. Donc, la terre va mettre très longtemps à se refroidir. Donc, tous les organismes qui vivent dedans conservent la chaleur. Et en plus, la dégradation de la couverture, de cette couverture d'humus, va produire la vie au printemps, quoi. Moi, je trouve ça, mais alors, magnifique. C'est cela qui nous est promis, mais aussi déjà donné dans la résurrection, dans la foi, dans la résurrection. La résurrection n'est pas autre chose que le miracle de la vie, tel qu'il se manifeste dans toute la création. C'est vrai qu'on peut dire que le mystère pascal, il est inscrit complètement dans le mystère de la création. Il n'y a pas, c'est pas deux choses différentes, quoi, hein. Dans la nature, la vie triomphe toujours. Un arbre qui meurt n'est pas autre chose que ce qui va donner l'humus nécessaire pour que la vie puisse sortir à nouveau de terre. Voilà, c'est ça qu'il faut penser et croire. Et cette loi du miracle de la vie est inscrite dans notre corps, hein, qui a reçu en Christ la promesse de la résurrection. Donc, je voudrais finir. Il faut que je me presse un peu. Aïe, aïe, aïe. Mais sinon, on pourra reprendre après dans la discussion les trois grandes vérités essentielles. Alors, peut-être que je vais vous les dire maintenant, et après, je les développerai, parce que sinon, je vais me faire récompenser par la dame. Et donc, voilà, je vais juste vous dire les trois points qui me semblent très importants, et après, on pourra y revenir. Hein. Alors, déjà, premier point, donc par rapport au corps proprement dit, croire en la résurrection du Christ et en la nôtre, bien sûr, c'est accorder au corps une place centrale dans la vie humaine. Un homme n'existe jamais sans son corps. Donc, après notre mort, le temps que nous retrouverons notre corps glorieux, eh bien, c'est un temps, on va dire, c'est un temps provisoire. Nous ne sommes pas faits pour ça. Nous sommes faits pour être un corps. Donc notre corps, vous voyez, d'une certaine manière, il est la dégradation et le vieillissement, la mort de notre corps est absolument promise, hein, à la vie éternelle, tout autant que l'âme. Donc le Seigneur, on pourrait dire, c'est faux quand on parle du salut des âmes, hein, parce que le salut des âmes, non, nous croyons au salut de l'homme tout entier, hein. C'est l'homme entier qui va être sauvé. Pensez au récit de la résurrection qui insiste tant sur la réalité corporelle du Christ. Disons qu'on pourrait dire que si le corps n'est pas sauvé, nous ne pouvons pas dire que nous sommes sauvés en tant qu'homme. Parce que nous ne savons pas ce que c'est un homme sans corps. Donc si mon corps n'est pas sauvé, je ne peux pas dire que je suis sauvé, c'est pas vrai. Vous voyez? Donc l'immortalité de l'âme, on pourrait dire, pour nous hommes vivant dans un corps, c'est un pis-aller. C'est parce que on n'a pas osé penser que le corps pouvait être promis à la gloire de Dieu. C'est, hein, vous voyez? Et ça contredit très profondément notre conception. Hein. Alors, je pourrais reprendre ça, hein, plus tard, hein, après. La deuxième vérité essentielle, c'est que notre corps est ce qui nous ancre dans la dimension temporelle. Hein. C'est par le corps que nous avons conscience du temps. Et si vous voulez, ça veut dire que si Dieu sauve notre corps par la résurrection, ça veut dire que, il sauve toute notre histoire. Parce que si vous voulez, le temps, il est surtout inscrit dans notre corps. Hein. Voir un vieux. C'est prendre conscience pour un être humain que le temps existe. Voyez, moi, je me dis souvent que c'est très important que les jeunes puissent vivre avec des gens vieux, des gens ridés, parce que c'est le seul moyen que nous avons de comprendre que le temps existe. Sinon, on voit plus le temps, on voit plus les effets du temps. Voyez, donc on a le sentiment que le temps n'existe pas, quoi. Donc, si notre corps est sauvé, si notre corps est ressuscité, ça veut dire que ce qui nous est promis, c'est que tout l'homme tout entier sera sauvé. Toute mon histoire. Et vous savez que le corps, c'est le lieu des blessures, des psychosomatisations, etc. C'est-à-dire que tout est sauvé. Tout est assumé par le Christ, hein, dans ma vie. Toute ma vie est assumée. Quelle bonne nouvelle aussi. Je n'ai pas à renoncer. Alors ça, c'est, je veux dire une chose un peu bizarre, donc à reprendre après. Hein. Coupez les micros, s'il vous plaît. Je n'ai pas à renoncer à moi-même. Ce n'est pas à cela que je dois renoncer. Je ne peux pas renoncer à moi-même. Si je renonce à moi-même, c'est un renoncement contre nature. Et souvent, le renoncement à soi-même, ça a été compris comme un renoncement à la vie du corps. Aïe, 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 aïe. Quel danger. Bon, on en reparlera après. Vous pouvez remettre le micro, ça va. Troisième chose aussi, en donnant au corps une place centrale, hein, et en lui accordant une valeur, une destinée éternelle, hein, la résurrection finalement nous réconcilie avec nous-mêmes. Et vous savez que de cette réconciliation-là va naître toutes les autres réconciliations. Un être pacifié, il est pacifié avec tous les autres êtres vivants, les frères et les sœurs, la création, voyez. Et donc finalement, c'est pour ça que Saint Paul, vous allez voir dans le texte que je vais vous proposer, la résurrection est liée à la réconciliation. Par la résurrection, Dieu me réconcilie avec tout, avec moi-même, ma vie, les autres êtres vivants, mes frères, mes ennemis, la création tout entière, tout. Voyez? C'est finalement la résurrection, elle me permet de m'assumer comme une personne pleine. Voyez? Je suis plein de tout, en fait, si je puis dire. Hein? Alors, voilà. Voilà, mais ça, alors je passe un peu vite. Hein. Vous savez que presque aucune de nos relations n'échappe à quelques difficultés. Il y a quand même, hein, souvent, même entre mari et femme, peut-être, je ne dis pas surtout, hein, qu'il ne faut pas exagérer quand même, mais quand même, toutes nos relations, il y a quelque chose qui. Hein. Et c'est ça que la résurrection vient réconcilier, vous voyez, c'est ça qu'il faut comprendre. Vous comprenez, l'enjeu est énorme. Hein. Mais alors j'ai fini en disant, c'est notre responsabilité d'homme. Parce que c'est comme ça. C'est par la résurrection que nous, hommes, nous sauvons la création aussi. Nous sommes sauveurs des autres. Mais comment voulez-vous que je sauve quelqu'un si moi-même je ne suis pas sauvé? Le salut, en fait, c'est une puissance de vie que je reçois de Dieu et que je peux transmettre, que je peux diffuser partout. Merci.